إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، حمانا الله إياكم منها. أما بعد، إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنواصل بعون الله تبارك وتعالى دروسنا في التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لفضيلة الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. وقد دخلنا في دروسنا الماضية في باب أو في باب من الشرك النذر لغير الله تبارك وتعالى، وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. طيب، فقال هناك الشيخ صالح حفظه الله تعالى هنا قاعدة في أنواع الاستدلال على أن عملا ما من الأعمال صرفه لغير الله جل وعلا شرك أكبر، وذلك أن الاستدلال نوعان. النوع الأول استدلال عام، يعني أن كل دليل من الكتاب أو السنة فيه إفراد الله بالعبادة يكون دليلا على أن كل عبادة لا تصلح إلا لله جل وعلا، فيكون الاستدلال بهذا النوع من الأدلة على تحريم النذر لغير الله جل وعلا وأنه شرك كالآتي: دل الدليل على وجوب صرف العبادة لله وحده، وعلى أنه لا يجوز صرف العبادة لغير الله جل وعلا، وأن من صرفها لغير الله جل وعلا فقد أشرك، والنذر عبادة من العبادات، فمن نذر لغير الله فقد أشرك. Donc on poursuit inshallah ta'ala notre explication de Kitab al-Tawhid basée donc sur le noble شرح du noble Sheikh Saleh al-Sheikh حفظه الله تعالى. Donc on est toujours dans le chapitre concernant le fait que anadru, donc le serment ou l'engagement pieux pour autre qu'Allah tabarak wa ta'ala, fait partie de l'association. Donc il dit, c'est le Cheikh Saleh hafidhahullah ta'ala, il y a une règle au sujet des types d'argumentation sur le fait qu'une action si on la dédie ou si on la voue pour autre que Allah tabarak wa ta'ala, ce sera du polythéisme majeur, shirkun akbar. Taïeb. Donc parmi Allah, il y a une règle ici qui concerne les différents types d'argumentation sur le fait qu'une action, si elle est dédiée ou vouée à autre que Allah tabarak wa ta'ala, sera du polythéisme majeur. Taïeb. Donc cette argumentation-là est de deux sortes. La première, une argumentation âme, générale. C'est-à-dire, toute preuve qui se trouve dans le livre d'Allah, Jalla wa Ala, ou la Sunna, dans lesquelles on a l'obligation d'uniciser Allah tabarak wa ta'ala dans l'adoration, ce sera une preuve ou sont des preuves sur le fait que toute adoration ne peuvent être vouées uniquement qu'à Allah tabarak wa ta'ala. Taïeb. Donc, cette forme d'argumentation à travers ce genre de preuves, des preuves qui sont générales, d'accord, qui ordonnent d'uniciser Allah tabarak wa ta'ala dans l'adoration, on va se servir de ces preuves-là, donc, pour argumenter et pour prouver qu'il est interdit de faire un nadr pour autre que Allah tabarak wa ta'ala, et que c'est du shirk, d'accord? Donc la preuve sur le fait qu'il est obligatoire de vouer l'adoration à Allah seul et qu'il est donc interdit de vouer l'adoration pour autre qu'Allah tabarak wa ta'ala, et donc par conséquent celui qui l'avoue pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aura associé à Allah jalla wa ala. Et donc un nadru, l'engagement pieux est une des adorations aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. De ce fait, celui qui fait un nadr pour autre qu'Allah tabarak wa ta'ala, il aura donc associé à Allah jalla wa ala. D'accord? Donc on s'est servi ici pour dire cela, des preuves qui sont générales, les preuves qui interdisent de manière générale le fait de vouer une adoration, quelle qu'elle soit, pour autre que Allah tabarak wa ta'ala, et que celui qui fait cela, il sera tombé dans le polythéisme. Et donc, étant donné que le nadr est une adoration, il sera donc interdit de vouer un nadr pour autre que Allah tabarak wa ta'ala, et que celui qui fait un nadr pour autre qu'Allah jalla wa ala, il aura commis également une forme d'association. D'accord? Donc là, on s'est servi des preuves qui sont amma, générales. والنوع الثاني من الاستدلال هو أن تستدل على المسائل بأدلة خاصة وردت فيها، كأن تستدل على تحريم الذبح لغير الله بأدلة خاصة وردت في ذلك، وكأن تستدل على وجوب الاستغاثة بالله وحده دون ما سواه بأدلة خاصة وردت بذلك، وكذا في الاستعاذة ونحو ذلك. طيب. La deuxième forme d'argumentation, elle va se faire à travers des preuves qui sont spécifiques. Qui sont spécifiques et qui ont été rapportées spécifiquement sur le sujet précis. D'accord? Comme par exemple, lorsque tu voudras argumenter pour affirmer l'interdiction de sacrifier pour autre que Allah tabarak wa ta'ala, tu peux te servir donc des preuves qui sont spécifiques au sacrifice pour autre que Allah jalla wa ala. D'accord? Si tu veux argumenter par exemple pour affirmer l'obligation de demander le secours à Allah et à Allah seul, tu peux te servir donc des preuves spécifiques qui concerne l'obligation de demander le secours à Allah seul. Et pareil pour la demande d'aide, etc., etc. D'accord? Donc on a vu les deux formes ici d'argumentation. On a une forme d'argumentation à travers laquelle on va utiliser des preuves qui sont générales, yani qui interdisent le shirk de manière générale et qui obligent le fait d'adorer Allah et de vouer toute forme d'adoration à Allah et à Allah seul. Et on a donc la seconde forme d'argumentation qui va être faite à travers des preuves qui sont spécifiques à l'action elle-même. D'accord? Yani à l'adoration de manière particulière et spécifique. فالدليل على وجوب إفراد الله بجميع أنواع العبادة تفصيلا وإجمالا وعلى أن صرفها لغير الله شرك أكبر يستقيم بهذين النوعين من الاستدلال. الأول استدلال عام بكل آية أو حديث فيهما الأمر بإفراد الله بالعبادة والنهي عن الشرك فتدخل هذه الصورة فيها لأنها عبادة بجامع تعريف العبادة. طيب أي نعم. Donc ici le cheikh, Fidaullah, donc la preuve de l'obligation d'uniciser Allah Jalla wa Ala par toutes les formes d'adoration, quelles qu'elles soient, de manière détaillée comme de manière générale, et la preuve du fait que le fait de vouer ces adorations-là pour autre qu'Allah tabarak wa ta'ala relève du polythéisme majeur, d'accord? Cette preuve-là, donc, elle va s'établir à travers ces deux formes d'argumentation. La preuve pourra s'établir à travers ces deux formes d'argumentation. On les rappelle. La première, une argumentation qui est générale et globale à travers tous les versets ou tous les hadiths dans lesquels on a le commandement, l'ordonnance d'uniciser Allah tabarak wa ta'ala dans l'adoration et l'interdiction du polythéisme. Et donc, entre dedans, ici, le sujet dont on parle ici, qui est nadr, l'engagement pieux, d'accord? Qui est une adoration, d'accord? Et qui est donc, qui respecte yani, la définition de tout ce qui définit ce qu'est une adoration. والثاني أن تستدل على المسألة بخصوص ما ورد فيها من الأدلة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى هنا باب من الشرك النذر لغير الله تعالى واستدل على ذلك بخصوص أدلة وردت في النذر. Et donc la seconde forme d'argumentation, c'est le fait que tu vas t'argumenter pour affirmer la question ici à travers ce qui a été rapporté de manière spécifique parmi les preuves. Hein? C'est pour cela qu'il dit les cheikhs, rahimahullah ta'ala, chapitre, fait partie du polythéisme, l'engagement en nadr, l'engagement pieux pour autre que Allah tabarak wa ta'ala. Et pour cela, il s'est argumenté, d'accord, des preuves qui sont spécifiques et qui ont été rapportées au sujet de an-nadr. D'ailleurs, وأما الآيات التي قدمها في أول الكتاب كقوله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وكقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وكقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وكقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا فهذه أدلة تصلح لأن يستدل بها على أن صرف النذر لغير الله شرك فنقول النذر لغير الله عبادة والله جل وعلا نهى أن تصرف العبادة لغيره وأن من صرف العبادة لغير الله جل وعلا فهو مشرك فنقول النذر عبادة لأنه داخل في حد العبادة لأن الله جل وعلا يرضاه ومدح الموفين به. Quant au verset que l'auteur, rahimahullah ta'ala, avait mentionné au tout début du livre, pour ceux qui s'en souviennent, telle que la parole d'Allah tabarak wa ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya, dans le sens du verset, et ton Seigneur a ordonné que vous n'adoriez que lui, ainsi que sa parole, surat al-Dhariyat, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, ainsi que sa parole, et adorer Allah et ne lui associer rien, telle que sa parole dit, venez, je vous récite ce que votre Seigneur vous a interdit, Allah tushriku bihi shay'an, que vous ne lui associez rien. Donc toutes ces preuves-là que vous avez remarquées, qu'elles sont des preuves générales, d'accord? Donc Allah Jalla wa Ala ne fait pas mention spécifiquement d'une adoration, yani, sur une autre. Allah ne parle pas d'une adoration de manière spécifique, telle que le nadr, ou le sacrifice, ou la prière, ou le jeûne, d'accord? Mais il parle de manière générale. Allah tabarak wa ta'ala ici interdit de manière générale le fait d'associer Allah tabarak wa ta'ala dans l'adoration, et il ordonne de manière générale également d'adorer Allah tabarak wa ta'ala seul. D'accord? Donc ces preuves-là, bien sûr, on peut les utiliser, même si elles sont des preuves qui sont générales, on peut quand même les utiliser pour dire que le fait de vouer un nadr, un engagement pieux pour autre qu'Allah tabarak wa ta'ala, est du shirk. Donc on dit, par exemple, un nadru pour autre qu'Allah tabarak wa ta'ala est une adoration. Allah jalla wa ala a interdit que l'adoration soit dédiée à autre que lui subhanahu wa ta'ala, et que celui qui voue l'adoration à autre que Allah, eh bien c'est un polythéiste. Par conséquent, nous disons donc que un nadr, vu que un nadr, l'engagement pieux, est une adoration, et que c'est une action qui est tout à fait conforme à la définition même de l'adoration, car Allah Jalla wa Ala donc agrée cette action, et Allah Jalla wa Ala a même fait les éloges de ceux qui honorent et respectent leurs engagements pieux. Cela nous montre donc par conséquent que toutes ces preuves-là qui sont générales peuvent être utilisées pour yani, cette action de manière spécifique qui est النذر. فالدليل الخاص الدليل الخاص إذن هو أن تستدل بخصوص ما جاء في الكتاب والسنة من الأدلة على النذر ولهذا أورد الشيخ رحمه الله هنا الدليل التفصيلي وفي أول الكتاب أتى بالأدلة العامة على كل مسائل العبادة وهذا من الفقه الدقيق في التصنيف ومن الفقه في الأدلة الشرعية أن المستدل على مسائل التوحيد ينبغي له أن يراعي التنويع لأن التنويع الاستدلال وإيراد الأدلة من عدة وجوه من شأنه أن يضعف حجة الخصوم الذين يدعون الناس لعبادة غير الله وللشرك به جل وعلا فإذا أوردت على الخصم مرة دليلا خاصا وتارة دليلا عاما ونوعت في ذلك فإن هذا مما يضيق به المخاصم ويقطع حجته أما إذ لم تورد إلا دليلا واحدا فربما أوله لك أو ناقشك فيه فيحصل عند المستدل ضعف عند المواجهة أما إذا انتبه لمقاصد أهل العلم وحفظ الأدلة فإنه يقوى على مجادلة الخصوم والله جل وعلا وعد عباده بالنصر كما في قوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقد قال الشيخ رحمه الله تعالى في كشف الشبهات والعام من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين وهذا صحيح فإن عند العوام الذين علموا مسائل التوحيد وأخذوها عن أهلها عنده من الحجج ووضوح البينات في ذلك ما ليس عند بعض المتعلمين. نعم. Donc il dit ici le Cheikh, fidah Allah. Maintenant la preuve qui est spécifique, la preuve qui est spécifique, particulière, par conséquent, c'est le fait que tu t'argumentes à travers ce qui est spécifique, hein, de ce qui a été rapporté dans le livre d'Allah, Jalla wa Ala. Et la sunna. D'accord? Parmi les preuves spécifiques à quoi? À cette adoration dont on parle ici, qui est al-nadr. C'est pour cela que le cheikh, rahimahullah ta'ala, l'auteur, ici, il a évoqué dans ce chapitre, donc, les preuves spécifiques, détaillées. Et alors qu'au début du livre, il a évoqué yani, les preuves qui sont générales et qui vont concerner, du coup, toutes les questions de l'adoration, ou toutes les formes d'adoration, quelles qu'elles soient. Et cela donc fait partie de l'habilité ou la maîtrise hein, de l'organisation de l'auteur, rahimahullah ta'ala, dans son livre et dans son agencement et dans la classification de ses chapitres. Donc fait partie de justement la maîtrise et l'habilité ou la compréhension des preuves religieuses, le fait que celui qui s'argumente, hein, celui qui va s'argumenter, qui va argumenter au sujet des questions du tawhid, eh bien, il faut qu'il fasse attention et qu'il prenne soin de diversifier son argumentation. D'accord? Parce que la diversification de l'argumentation et l'effet d'évoquer des preuves de plusieurs manières, de plusieurs aspects, eh bien cela va affaiblir l'argumentation du contradicteur. D'accord? Ça c'est lorsque tu vas discuter, lorsque tu vas yani, vouloir affirmer la vérité face à quelqu'un qui te contredit. D'accord? Donc il dit le cheikh, le fait de diversifier ton argumentation à travers différents types de preuves, cela va affaiblir l'argumentation du contradicteur, qui appelle les gens, par exemple, à l'adoration d'autres qu'Allah tabaraka wa ta'ala, et donc au polythéisme. Wal'iyadu billah. Donc toi, lorsque tu vas vouloir argumenter contre ce genre de personnes, et donc tu devras de temps en temps évoquer des preuves qui sont spécifiques, mais aussi des preuves qui sont générales. D'accord? Tu dois diversifier ton argumentation. Voyez? Car le fait de diversifier tes preuves, ton argumentation, cela va coincer en fait, cela va mener le contradicteur à être coincé. Il ne pourra pas répondre à ces différentes formes d'argumentation. Et cela va donc contrecarrer totalement son argumentation à lui. D'accord? Alors que si tu évoques yani, qu'une seule preuve, par exemple, tu viens avec une preuve qui est générale ou une seule preuve même qui est spécifique, il se peut qu'il va interpréter ta preuve. D'accord? Il va prendre ta preuve. Il va te donner une interprétation, voyez, qui va aller dans son sens. Ou alors, il va prendre cette preuve-là et il va commencer à débattre et à discuter sur le sens ou le tafsir ou l'explication de cette preuve-là. D'accord? Donc, du coup, le fait que tu ramènes qu'une seule preuve ou qu'un seul type de preuve, cela va en vérité, t'affaiblir dans ton argumentation face au contradicteur. Alors que si la personne qui argumente, elle a pris soin d'étudier les paroles des gens de science, et elle a mémorisé les preuves qui sont générales, mais aussi les preuves qui sont spécifiques, eh bien cela va la fortifier. Elle sera forte. Elle sera ferme et robuste face aux contradicteurs. Et Allah Jalla wa Ala, bien sûr, il a promis à ses serviteurs la victoire, hein, comme il a dit dans la sourate Ghafir, dans le verset 51, dans le sens rapproché du verset, il a dit. Nous faisons triompher nos messagers et ceux qui croient dans la vie d'ici-bas, ainsi qu'au jour où les témoins se dresseront. Donc ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala également, il a dit dans un autre livre connu qui est Kashf al-Shubuhat, il a dit l'ammi. Donc l'ammi, c'est une personne de la masse. D'accord? Une personne de la masse qui n'a pas beaucoup de science. Mais il dit malgré ça, l'ammi, donc la personne de la masse, parmi bien sûr les monothéistes, eh bien, est victorieux contre 1000 savants des polythéistes. D'accord? L'ammi, parmi les monothéistes, eh bien, il est victorieux même s'il se trouve face à 1000 savants parmi les polythéistes. Voyez? Et ceci est véridique. Ceci est véridique. Parce qu'il y a chez, justement, l'awam, chez les gens de la masse, qui ont appris quand même les questions du tawhid et qui les ont prises des gens de science. Ils ont des preuves. Ils sont armés d'argumentations et de preuves et d'arguments qui sont clairs et évidents à ces sujets-là, alors que certains, parmi al-muta'allimoun, parmi ceux qui se prétendent yani, étudiants en sciences ou autres, ne posséderaient même pas. D'accord? Donc, ce qui est important ici, c'est de s'armer de preuves et d'argumentations et de diversifier aussi son argumentation. Là. وقول الله تعالى يوفون بالنذر وجه الاستدلال به على كون النذر عبادة ظاهر وهو أن الله جل وعلا مدح الموفين بالنذر ومدحه للموفين بالنذر يقتضي أن الوفاء بالنذر محبوب له جل وعلا وأنه مشروع وما كان كذلك فهو من أنواع العبادات فيكون صرفه لغير الله جل وعلا شركا أكبر. Donc la première preuve citée par l'auteur ici, rahimahullah ta'ala, de la sourate Al-Insan, yufuna bin nadri. Ils honorent l'engagement pieux, al-nadr. Donc ici l'argumentation, à travers ce verset-là, sur le fait qu'un nadr est une adoration, elle est claire, l'argumentation elle est claire, elle est évidente. Et qui est le fait que Allah tabaraka wa ta'ala, dans ce verset, il a fait les éloges. Hein? Il a fait les éloges, il a complimenté ceux qui honorent leurs engagements pieux. D'accord? Et le fait qu'Allah jalla wa ala fasse les éloges de ceux-là, eh bien, cela implique que le respect de an-nadr est une chose qui est aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah jalla wa ala a fait leurs éloges, ça veut dire qu'Allah aime cet acte-là. D'accord? Et qu'il est légiféré, bien sûr. Na'am. Et cela nous montre, par conséquent, clairement que an-nadr fait partie des différentes formes d'adoration aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le fait de l'avouer pour autre que Allah Jalla wa Ala, relèvera du polythéisme majeur. وكذلك قوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه فإن الله عظم النذر بقوله تعالى فإن الله يعلمه وعظم أهله وهذا يدل على أن الوفاء به عبادة محبوبة لله جل وعلا. Et également le verset d'Allah, donc le deuxième verset mentionné par l'auteur ici, rahimahullah ta'ala, de la sourate Al-Baqarah. Dans le sens rapproché à Allah tabarak wa ta'ala, il dit, quelque aumône que vous fassiez, quelque vœu pieux que vous formuliez, Allah en a parfaitement, ou Allah en est parfaitement savant. Allah en est parfaitement savant. Taïe. Donc ici dans ce verset-là, Allah Jalla wa Ala a exprimé l'importance de An-Nadr. Et cela à travers sa parole, فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. Allah en est parfaitement savant. Donc Allah Jalla wa Ala aussi, à travers cette parole, il a montré, il a élevé la valeur des gens justement qui honorent, d'accord, qui honorent leur serment ou leurs engagements pieux. Et cela indique que le fait de d'honorer ces adorations, yani cet engagement pieux, est une adoration aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, هذا قال شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى أن الله يعلم نفقات العباد ونذورهم فيجازيهم عليها إن كانت لوجه الله فدل على أن النذر عبادة حيث قرنه بالنفقات والنفقة عبادة إذا كانت لوجه الله تبارك وتعالى كصدقات على الفقراء والمساكين فإذا نذر وتصدق بشيء للقبر أو لبنائه أو لآلهة معينة والعياذ بالله صار هذا شركا أكبر بالله سبحانه وتعالى. يجي للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. Donc le fait qu'Allah tabarak wa ta'ala dans ce verset, il dit qu'Allah il est parfaitement savant des aumônes, des serviteurs et de leurs engagements pieux, taïeb, cela nous montre qu'Allah tabarak wa ta'ala les rétribue, les récompense pour ces actions-là, qui sont les aumônes et les engagements pieux. Bien sûr, si elles sont faites pour le visage d'Allah, tabarak wa ta'ala. Et ça prouve donc que An-Nadr est une adoration, encore une fois, du fait qu'Allah Jalla wa Ala également l'a associé avec les aumônes. Donc le fait qu'Allah Jalla wa Ala l'a associé avec As-Sadaqat, les aumônes, nous montre que An-Nadr, ici, est une adoration. D'accord? Donc comme l'aumône est une adoration lorsqu'elle est faite pour le visage d'Allah, tabarak wa ta'ala, comme le fait de faire des aumônes en faveur des pauvres et des nécessiteux. D'accord? Donc si la personne elle fait un nadr ou fait une aumône d'une chose, même si elle est minime ou infime, pour une tombe, pour un mausolée, pour des divinités particulières, hein, eh bien cela deviendra du polythéisme majeur et de l'association en Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. ثم قال المؤلف وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وجد دلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الوفاء بالنذر فقال من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وهذا فيه إيجاب أو إيجاب الوفاء بالنذر المطلق الذي يكون طاعة، كأن يقول لله علي أن أصلي كذا وكذا، فهذا يجب عليه أن يوفي بنذره، وكذا إن كان النذر مقيدا كأن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بمئة ريال، فهذا يجب عليه أن يوفي بنذره لله جل وعلا وإيجاب ذلك يدل على أنه عبادة محبوبة لأن الواجب من أنواع العبادات وأن ما كان وسيلة إليه فإنه أيضا عبادة لأن الوسيلة للوفاء بالنذر هي النذر فلولا النذر لم يأتي الوفاء فأوجب الوفاء لأجل أن المكلف هو الذي ألزم نفسه بهذه العبادة. Puis l'auteur, Himallah Ta'ala, donc mentionne le hadith de Aïcha. D'accord? Donc il dit dans le Sahih, selon Aïcha radiallahu anha, hein, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, celui qui fait un nadr d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse. Et celui qui fait un nadr de désobéir à Allah, qu'il ne lui désobéisse pas. D'accord? Donc l'argumentaire ici, au niveau de, ou à travers ce hadith, c'est le fait que An-Nabi ou sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire le fait d'honorer le nadr. en disant, celui qui fait un nadr, celui qui s'est engagé pieusement d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse. D'accord? Donc il y a dans cette formule du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'obligation d'honorer l'engagement pieux. Un engagement qui soit mutlaq, qu'on a vu, hein, un nadr mutlaq, c'est-à-dire l'engagement pieux absolu, d'accord, qui n'a pas de restriction, jayid, et qui est une obéissance, bien sûr, à Allah tabaraka wa ta'ala, comme par exemple le fait de dire, pour Allah, je m'engage de prier ceci et cela. D'accord? Donc, à ce moment-là, il lui est obligatoire d'honorer son engagement. Jayid. Et bien sûr, cela concerne également les nadhr qui sont muqayyad, les engagements pieux qui sont conditionnés. Comme le fait de dire, si Allah guérit telle ou telle personne malade, eh bien pour Allah, je m'engage, je m'oblige à verser en aumône 100 riyals. D'accord? Ou 100 euros, comme vous voulez. Donc cela, celui qui fait cela, il est obligatoire, d'accord? Si Allah Jalla wa Ala, accorde la guérison à cette personne-là, il lui sera obligatoire, na'am, de respecter son nadr pour Allah Jalla wa Ala. Taïeb. Et donc, cette obligation-là de respecter ce nadr prouve que c'est une adoration aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ce qui est obligatoire, eh bien, cela fait partie des types d'adoration. D'accord? Naam. Et de ce fait, tout ce qui est un moyen qui va te permettre de remplir cette obligation, qui est donc une adoration, sera lui aussi une adoration. Donc le moyen de parvenir à respecter le nedr, qui est obligatoire, sera lui aussi obligatoire. Jaïd. Et c'est quoi le moyen qui va te faire, qui va te permettre de respecter le nedr? Eh bien, tout simplement, c'est le fait de faire un nedr. Donc, toi, si tu veux respecter un nedr, forcément, tu te dois de faire un nedr. Taïeb, car s'il n'y a pas de nedr, il n'y a pas d'obligation de respect d'un nedr. Donc, lorsque la personne fera yani, un nedr, il lui sera obligatoire de l'honorer, taïeb, car el-mukallaf, yani, c'est lui qui s'est imposé à lui-même cette action-là, à travers cette adoration-là, donc forcément, il lui sera obligatoire de le respecter. أما المنع من الوفاء بنذر المعصية الذي دل عليه قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه فلأن إيجاب المكلف على نفسه معصية الله جل وعلا فيه معارضة لنهي الله جل وعلا عن العصيان وإذا نذر العبد العصيان فإن النذر كما هو معلوم في الفقه قد انعقد ويجب عليه أن لا يفي بفعل تلك المعصية لكن يجب عليه أن يكفر عن ذلك كفارة يمين ومحل ذلك باب النذر في كتب الفقه. Quant à l'interdiction de respecter hein, un nadr de désobéissance à Allah tabarak wa ta'ala, donc c'est la preuve qui est dans le hadith, lorsqu'il dit le prophète, alayhi salatu wassalam, celui qui fait un nadr de désobéir à Allah Jalla wa Ala, qu'il ne lui désobéisse pas. Car le fait que al-mukallaf, donc la personne religieusement responsable, s'impose à elle-même de désobéir à Allah Jalla wa Ala, bien sûr, cela est une contradiction et une opposition à l'interdiction même d'Allah subhanahu wa ta'ala de lui désobéir. Donc comment peux-tu vouloir yani, t'engager pour Allah de lui désobéir. Taïeb. Donc vu qu'Allah tabaraka wa ta'ala a interdit qu'on lui désobéisse, donc lorsque le serviteur s'engage à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord, qu'est-ce qui va se passer? Donc comme on a vu dans les cours précédents et comme cela est connu dans la jurisprudence, cette forme, ce type de nadr, de désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala, il est pris en compte. D'accord? Il compte quand même. D'accord? Il est valide. Mais il sera interdit de le respecter, bien sûr. Mais vu qu'il est valide, qu'est-ce que la personne devra faire? Elle devra faire une expiation. Elle devra faire une expiation. Donc son œuvre, il est pris en compte. Il n'a pas le droit de le respecter, mais il sera obligé de faire une expiation qui est l'expiation du serment. D'accord? Donc ce sujet-là a été traité notamment dans les livres de jurisprudence. فالمقصود من هذا أن استدلال الشيخ رحمه الله تعالى بالشق الأول وهو قوله من نذر أن يطيع الله فليطيعه ظاهر في الدلالة على أن النذر عبادة وكذلك في قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه حيث أوجب عليه كفارة يمين فهذا يدل على أن أصله منعقد وإنما انعقد لكونه عبادة وإذا كان عبادة فصرفها لغير الله شرك أكبر به جل وعلا فالنذر لله جل وعلا عبادة عظيمة كما ذكرنا والنذر لغير الله جل وعلا أيضا عبادة فإذا توجه الناذر لغير الله بالنذر فقد عبده وإذا توجه الناذر لله جل وعلا بالنذر فقد عبد الله جل وعلا فالنذر على أي حال كان لله أو لغير الله هو عبادة ثم إن كان لله فهو عبادة لله جل وعلا وإن كان لغير الله جل وعلا فهو عبادة لذلك الغير والله تعالى أعلم. Et pour finir, Inch'Allah Ta'ala, donc, ce qui est visé ici, en cela, c'est que l'argumentation de l'auteur, rahimahullah ta'ala, dans la première partie, qui est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait un nadr d'obéir à Allah, tabarak wa ta'ala, qu'il lui obéisse, l'argumentation, elle est claire ici, d'accord, sur le fait qu'un nadr est une adoration. Et également dans la seconde moitié, de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Celui qui fait un nadr de désobéir à Allah, tabarak wa ta'ala, qu'il ne lui désobéisse pas, d'accord, dans le sens où il s'est yani, obligé donc, de désobéir à Allah, tabarak wa ta'ala, il devra par conséquent ne pas honorer son nadr, mais il devra yani, faire une expiation du serment, ce qui nous montre donc que la base du nadr de désobéissance est quand même prise en compte, d'accord? Et s'il est pris en compte, cela nous montre qu'un nadr est une adoration, et comme c'est une adoration, eh bien le fait de l'avouer pour autre qu'Allah tabarak wa ta'ala relèvera du polythéisme majeur. Donc, un nadr pour Allah subhanahu wa ta'ala est donc une adoration qui est immense, comme nous l'avons mentionné. Et un nadr pour autre qu'Allah tabarak wa ta'ala est aussi une adoration. D'accord? Par conséquent, la personne qui fait un nadr, qu'on appelle un nadr, celui qui fait un nadr, s'il dirige son nadr pour autre qu'Allah tabarak wa ta'ala, eh bien, il aura adoré cet autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais s'il dirige son nadr pour Allah subhanahu wa ta'ala, il aura donc adoré Allah jalla wa ala. Donc, quoi qu'il en soit, un nadr, yani, quoi qu'il en soit, qu'il soit absolu ou conditionné, mutlaq ou muqayyad, s'il le fait pour Allah tabarak wa ta'ala ou pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sera dans les deux cas une adoration. D'accord? Une adoration. Ensuite, si elle est faite pour Allah, c'est une adoration pour Allah. Et si elle est faite pour autre qu'Allah tabarak wa ta'ala, ce sera une adoration pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Donc on s'arrête là, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on mentionnera les points essentiels de ce chapitre, bi'idhnillahi azza wa jal, avant de passer au chapitre suivant. Barakallahu fikum, wa l'ilmu indallahu, akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin, wa ala ali wa ashabi ajma'in, wa sallama taslima. Barakallahu fikum, wa salamu alaykum, wa rahmatullahi wa barakatuh.